Podcast.com. Essaye ça. Le crachoir, épisode 218. Bisous. Bye. B-A-I-L. Je sais pas pourquoi ce titre-là, mais je suis convaincu que Martin, mon co-animateur, lui, le sait, parce qu'il l'a choisi. Martin, ça va?
Oui, ça va. Écoute, on est dans des... on s'était dit qu'on chialerait pas, mais tu sais, pour ceux que ça intéresse, oui, nous sommes dans le retour de flamme du musée de la sudation, n'est-ce pas? Alors, pour ce rendez-vous dominical, on mesure la température en Kelvin. Et c'est correct, moi, j'ai fini de chialer. Je suis tanné de m'entendre chialer sur la chaleur.
Si vous entendez des ventilateurs, dites-vous que c'est pour assurer le fonctionnement continu des ordinateurs. Donc, on n'a pas le choix de vous faire endurer ce petit bruit de fond-là. Si vous l'entendez, sinon, ben tant mieux. Martin, pourquoi? Bisous, bye, B-A-I-L, bye.
Ben, moi, j'ai envie qu'il n'y ait pas de niaisage cette semaine, Frank, parce que il s'est passé ben des affaires. Ouais. Fait que c'est pourquoi je pense qu'on est dû drette là.
Actualité Conspi.
Comment ne pas ouvrir cette 218e édition du crachoir sans parler, bien sûr, de ce que je considère comme, jusqu'à présent, la plus belle, fantastique, mirobolante, gigantesque, impressionnante bourde du duo Magog en chef jusqu'à présent. Et c'est-à-dire, bien sûr, la nouvelle qui est sortie hier, pas plus tard qu'hier, à l'effet que M. Duhem serait en possession de propriétés dont les taxes n'avaient pas été acquittées.
J'aurais dû devoir venir.
Bon, ça, jusque-là, c'est pas fort, mais ça peut arriver. C'est pas fort, là. Pas en train de dire, ben, rien là. Non, non.
On lance pas la roche.
Non, non, c'est ça. Il y a quelque chose là, mais c'est quelque chose qui peut quand même... Quand même. Oui, ça fait pas mal de mimes. Mais qui peut quand même se produire. La réelle... L'affaire qui a le moins d'allure dans cette affaire-là, c'est pas tellement que ça soit arrivé. C'est une bourde sans contredit. Imaginez-vous juste que ça aurait été n'importe quel autre des candidats qui aurait dit lui.
C'est la théorie qui est venue après.
Ben non, c'est que au cours d'un échange qui a été rendu public avec un journaliste, la question qu'il lui pose pour valider un peu sa réponse, parce que ça fait partie de la procédure journalistique de donner droit de réplique à la personne sur laquelle tu vas publier. Là, il dit, je pensais que ça incombait au locataire. Qui dois-je contacter? C'est ça, la bourde. C'est ce call-là. Tu sais, au lieu de... Pas capable. Tu sais, là, tu pognes ton sel, tu te fais dire, on s'apprête à publier... Mettons qu'il a dit, là, quelque chose qui tourne autour de... On s'apprête à publier un papier, un article sur le fait que vous avez possédé des immeubles qui sont en défaut de payer taxes foncières. Tu réponds pas, man! Tu pars à la course, tu dis que c'est ça! Tu dis pas, ah ouais, faut que j'appelle qui? C'est quoi ça? Ça va être quoi, toutes les fois, tu vas rencontrer une problématique gouvernementale? Ah, monsieur le journaliste, faut que je parle de qui, de ça?
Ce que tu peux faire, c'est après, sur Facebook, dire que le journal essaie de trouver n'importe quel prétexte pour t'insérer dans son papier pour profiter de ta popularité. Si j'ai bien compris, c'est sa théorie. Là. C'est la raison pour laquelle c'est sorti. C'est que le journal voulait avoir l'immense privilège d'avoir Éric Duhem entre ses pages.
Ben, voilà. Ça, c'est... Puis après ça, évidemment... que là, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu une conférence de presse par la suite dans le cadre d'autres choses et il s'est évidemment fait questionner là-dessus. Mm-hmm. Bon, première affaire, ça a été payé. Moi, j'ai trouvé ça spécial pareil parce que tout ça c'est arrivé le vendredi. Je vais aller m'assurer de connaître l'heure exacte de la sortie de l'article parce que, tu sais, la majorité des... En tout cas, me semble que c'est sorti, là. Je veux pas me mettre le pied dans la bouche, Frank, fait que ça va me prendre 2 secondes, là.
Mais pendant que tu cherches, moi, ce que j'aurais fait, moi, c'est que j'aurais dit, il s'agit d'une erreur, j'ai payé, et tout est en règle, fin. Mais d'aller affirmer qu'un organe de presse utilise cette histoire-là pour profiter de sa popularité, c'est à la fois un peu maladroit et, on va dire, c'est un petit peu prétentieux. Hein?
Ouais. Fait que là, j'ai une question.
Ouais.
Je sais pas s'il en a été fait état depuis que cette nouvelle-là est sortie, là, mais ma question est très, très simple. L'article de Jean-Louis Fortin, il y en a eu plus qu'un, là, entendons-nous, mais moi, en tout cas, la première fois, j'ai été mis au fait de ça. L'article de Jean-Louis Fortin sur Cube Média est sorti le 9 septembre, donc samedi, à 16h30. Et il y a eu une mise à jour le 10 septembre à minuit. Le samedi, il y a la fameuse, donc le 10, hier, il y a la fameuse, si je ne m'abuse, la conférence de presse dans laquelle il en parle a eu lieu samedi. Et il mentionne qu'il a payé ses taxes. Il a payé ça où, puis quand, là?
Dans la fin de semaine.
Ouais, c'est quoi? Ils ont débarré l'hôtel de ville, le département des taxes foncières. Comment ça marche,
là? Ben, il a peut-être fait un paiement, tu sais, par Internet, puis c'est pas passé encore tout à fait, mais son paiement est fait. C'est-à-dire que de son côté, ça pourrait être ça, son argument. Ça pourrait être ça, la logistique derrière ça, là. Tu sais, que le paiement a été fait, ben, peut-être pas encore reçu, mais qu'il aurait agi en fonction de régulariser son cas. Puis, soyons de bonne foi, on va dire qu'on le croit. Mais moi, c'est plutôt sa façon de dire que c'était juste un prétexte pour parler de lui, là, comme si
on... Ben ouais, comme ça, on avait besoin de bien des raisons, ils sont pas capables d'écrire une pancarte comme du monde.
En pleine campagne électorale, oui, c'est ça, Rampantigny, là, tu sais. Nous autres, on en trouve des choses à dire.
Il y en a eu un autre aussi, hein. Ça continue, c'est la sempiternelle, écoute, insulte à la grand-mère, parce que, justement, je pense que c'est hier ou avant-hier, là, je veux pas appeler pas la police, au cours, encore une fois, d'une conférence de presse, il y avait une, tu sais, sur son lutrin, tu sais, c'était écrit « Abolir la TVQ sur les biens usagés », pas de S à « biens ». Ils sont merveilleux.
Ils sont fantastiques.
Là, il était en arrière du lutrin, c'est tout sérieux, puis hein, présidentiel, puis tout. Il y a une faute de grand-mère de quatrième année devant lui.
Ça fait conspire, on va le dire. Mais ouais. Le plus drôle et le plus ironique là-dedans, c'est qu'ils prennent la peine de mettre leur pancarte au-dessus de celle de leurs adversaires, si ce n'est pas devant. T'sais, ils les mettent bien en évidence et pour qu'on les voit bien comme il faut. Puis ce qui frappe en premier pour un œil exercé, ce sont les fautes de français gênantes. Là, t'sais, je comprends, là, t'sais, si je sais pas, je veux être président du club des Lions, ou ben je veux être le nouveau caller au bingo paroissial en fin de semaine, mais là il veut être premier ministre du Québec, là, t'sais, ça serait pas pire que il veut que lui et son organisation, son parti, dirige le Québec. Ça serait pas pire qu'il soit capable d'écrire la langue officielle comme il faut, avant de commencer à prendre le mandat de la défendre, tiens.
dans les propos aussi qu'il a tenus, tu sais, il posait la question, tu sais, à qui dois-je m'adresser, c'est les locataires qui payent ça. Il est sorti un article également hier, qui a été mis à jour hier à 20h37 dans la presse. Je vais vous en parler un petit peu, parce que juste pour expliquer, parce que là, il y a des gens peut-être, tu sais, qui sont moins versés en matière de taxes foncières et tout ça. Tu sais, le loyer, c'est à ça qui sert, dans le fond, là, payer tes taxes foncières. Tu sais, mais la notion importante à comprendre, c'est que l'imputabilité de celle-ci, l'imbut de la payer, ne revient pas au locataire, ça revient au propriétaire, au dit gestionnaire de l'immeuble. Les taxes foncières qui varient selon la valeur d'évaluation municipale, ça rentre là-dedans. Ça fait référence à Maître Manuel Johnson, avocat spécialisé en affaires du logement au cabinet Ouellet, Nadon et Associés, qui est d'avis que le paiement des taxes par le locataire de M. Duhem pourrait être illégal au sens du Code civil. Il réfère ainsi à l'article 1893 du Code qui régit les clauses sans effet d'un bail portant sur un logement. Pourquoi la valeur de refiler... OK, t'es locataire, le coût de ton loyer, il est fixé, puis il est valide pour 12 mois, OK? Fait que là, si tu refiles en plus la facture des taxes foncières, ben la valeur au livre, ou la valeur foncière d'un immeuble fluctue d'année en année, donc ça veut dire que le loyer, il est plus fixé. Parce qu'une année, elle peut être listée à 600 000, puis l'autre à 650 000. C'est un pourcentage duquel tu payes tes taxes foncières. Fait que ça fait juste encore une fois démontrer que, tu sais, c'est disons que ça démontrait une petite, au minimum, inaptitude en matière de connaissances là-dessus. Est-ce qu'il faut que tu sois un expert en taxes foncières pour gouverner? Non, je pense pas. Sauf que regarde, c'est de même, ça marche, là, une campagne électorale. Tu le savais, tu sais, Éric. Voyons, quand le journaliste, pourquoi t'as répondu au journaliste? Raccroche, puis va payer tes taxes avant de dire n'importe quoi, calice!
Mais tu sais, tu veux administrer une province canadienne, ça serait pas pire que tu fasses tes preuves que tu peux administrer deux blocs. Ça, en partant, moi, je trouve que ça monte pas d'une très grande compétence. Tu sais, le gars, si je me trompe pas, il a travaillé pour Air Transat. Tu sais, je sais pas si Duhaime, il aurait gravi les échelons de la même façon dans cette compagnie-là, mais apparemment, deux blocs à gérer, c'est bien en masse. Fait que moi, en tout cas, j'ai des doutes pour la province, mais ça, ce sont vous, les électeurs, qui allez faire votre choix.
Et la beauté de l'Internet et la beauté de notre passe-temps favori est la suivante. Dans la soirée du 9 septembre, il y a des gens de l'équipe de ménage du dimanche qui ont sorti cette pièce d'anthologie. Éric Duhaime, le 9 avril 2015, alors qu'il était journaliste, exclusif, après Gabriel Nadeau-Dubois et Inde Fazazi, Camille Godbout aussi ne paye pas son loyer. Elle a été condamnée par la régie du logement le 15 janvier dernier à rembourser 1624 pièces et demie et a été expulsée de son logement.
Je ne sais pas si à ce moment-là, il se rendait compte au moment de lancer cette pierre-là que sa maison était faite de verre. Mais aujourd'hui, je sais, c'est sûr qu'il s'en est aperçu. En tout cas, si lui a oublié cet épisode-là, je pense qu'on ça vaut la peine de lui rappeler.
Ah, tout à fait. Mais là, je te pose une question. Ça faisait partie des affaires que je voulais jaser avec toi parce que, évidemment, Éric Duhaime a fait amende honorable à ses yeux. À lui, c'est-à-dire, il a payé ses taxes de un et de deux, ben, il s'est pas caché. Il a dit, c'est à moi que ça revenait, puis je l'ai fait, puis je m'excuse, puis blablabla. Mais évidemment qu'il fallait que le coup de saumon se revienne parce que figure-toi que dans un des articles, on montre les résidences. Okay? C'est un plan serré. On voit pas l'adresse. L'adresse a été brouillée. Il y a deux édifices parce qu'il y avait déjà eu des problématiques avec un autre building. On voit là, tu sais, l'espèce de, je sais pas comment appeler ça, là, mais le médaillon sur lequel on voit l'adresse, ça a été délibérément brouillé. Là. Tu vois pas le numéro de la rue, il parle du quartier. Bon, gars, si t'as rien à faire dans la vie, tu vas aller perdre un dimanche, tu vas probablement la trouver. Mais garde, je pense que on s'en calisse.
Ouais, ça vaut pas vraiment la peine.
Bon, sauf que là, je te pose la question à toi, puis moi j'ai une réponse après. Parce que là, évidemment que la panique a pris, là. Ça, j'ai été outré de voir ma maison en une du journal, blablabla, puis on fait des appels au calme et patati et patata. Journalistiquement parlant et Frank Pocket-tiquement parlant, là. T'es-tu pour ou contre qui a montré la maison dans une photo?
Ben, si on a brouillé l'adresse, je pense que c'était fait correctement.
Ben, moi, avec, c'est ça que je pense. Je pense que, tu sais, c'est le genre de...
Tu peux pas dire
que
c'est du doxing, là.
Ben, moi non plus, je pense pas, tu sais. Est-ce que c'est fringe un petit peu? J'ai pas dit cringe, là, j'ai dit fringe. Est-ce que c'est sur la frange un petit peu de l'éthique, machin? Moi, personnellement, je dirais que ça se rapproche de la ligne, de la frange. Mais si tu brouilles l'adresse, là, come on, là.
Moi, je pense que ça fait partie de la nouvelle. Puis on veut souvent agrémenter d'une image. Et cette image-là n'identifie pas l'endroit de cette maison-là. Non. Et des maisons au Québec, il y en a deux, trois, quatre. Il y en a beaucoup. Fait que, tu sais, non. Pour moi, c'est tout à fait correct, là. Si j'avais eu à faire cet article-là, cette nouvelle-là, j'aurais probablement agi de la même façon.
Moi avec. Pour moi, il y a une différence. Puis là, on parle pas de Tartampion, whatever, là. On parle de quelqu'un qui brigue le poste le plus administratif, le plus important de notre province. Là.
Et qu'il faut dire en passant, a choisi la vie publique depuis plus de 10 ans, là.
Voilà. Fait que moi, ça m'intéresse. Chris, on se chicane jamais, Frank.
Ça manque, moi aussi, Martin. Il faudrait qu'on trouve une pomme de discorde. Si vous avez des suggestions, envoyez-nous ça. Si vous pensez qu'il y a des sujets sur lesquels on pourrait se pogner, autre que le motif sur la chemise que Martin porte présentement. J'essaye quelque chose. Bon. On va finir par chicaner, Martin. Ça va arriver. Ça va arriver.
Make 46 great again.
Voilà.
Écoute, quelqu'un qui est loin d'être great again et qui ne l'a pas été depuis fort longtemps, c'est notre ami, bien sûr, François Malega, qui me semble dans une chire là, que je ne l'ai pas vu avoir encore. S'il y a du monde, là, moi je m'excuse, Frank, là, mais quand tu vois, écoute ça, là, OK, je vais t'en sortir deux, mais il y en a plein. OK?
Pendant que tu sors, moi, je vais te dire que d'habitude, quand tu te fais réprimander pour tes actions, c'est le moment idéal pour faire une prise de conscience et peut-être réajuster le tir et se dire peut-être que j'agis pas de la bonne façon, peut-être que j'ai pas raison, ou peut-être que je suis en train de gâcher ma carrière / ma vie.
Écoute ça, là. Ça, c'est le 10. Je prie Dieu que le bébé qui est dans le ventre de Marois Riski ne soit pas comme sa mère, mais que ce soit un vaillant complotiste, le Donald Trump du futur.
Erk.
Tu vas pas bien, là, François.
C'est une fixation, là. Le Trump du futur. Colin.
Après ça, le lendemain, pas deux semaines, pas trois semaines après, là. Le lendemain, après que Éric Duhaime, dans une conférence de presse, a largué les complotistes parce qu'il ne croit pas aux histoires de Bill Gates, puis il croit aux résultats qu'auront les élections, puis il ne croit pas. Bon, comme Marc Court sur Twitter l'a très bien dit, Éric Duhaime vous a largué. Parce que, mais le lendemain de ça, François Malega, est-ce qu'il y a un. Il faut que je le fasse demain. Est-ce qu'il y a un plan pour surveiller la fraude électorale massive du 3 octobre? Pas une fraude électorale, pas le risque de fraude électorale, pas faisons ça diligemment à toute l'équipe. Non. La fraude massive.
Oui, mais il a déjà décidé qu'elle serait massive. Fait que selon moi, quand le résultat qui vraisemblablement ne lui plaira pas sera sorti, c'est probablement ce sera probablement son cheval de bataille. Mais moi, j'en suis encore à Trump, là, quand il souhaite le Trump du futur. Je me demande si le Trump du futur, comme le Trump actuel ou le Trump du passé, qui est le même, va trouver aussi qu'il y a des bonnes personnes chez les suprémacistes blancs. Je sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu les événements, c'était à Charlottetown. C'est ça le nom de la ville? Je pense que oui. Il y avait eu des affrontements entre des antifa et des extrémistes de droite, dont beaucoup de néo-nazis et de suprémacistes blancs. Et la réaction de Trump au lendemain de ça, c'était de dire qu'il y avait des bonnes gens de chaque côté. Je sais pas si François Malega est au courant de cette citation-là. Et si oui, je me demande comment il pourrait la rationaliser ou bien réconcilier ça avec l'amour et l'admiration sans borne qu'il éprouve pour le 45e président déchu.
Je t'en sors deux autres, c'est deux plus récents. T'sais, pour te faire encore une fois le fil conducteur un peu là, de... Ouais, ça, c'est hier, évidemment, à suite, hein, parce qu'on va en parler un petit peu. Hein, Jean Charest a perdu sa gageure. Il a perdu sa gageure. Depuis le début que Jean Charest s'est présenté à la chefferie du Parti conservateur du Canada, j'ai l'impression qu'il a perdu une gageure au club de golf.
J'ai l'impression qu'il n'a jamais cru lui-même.
Ouais, c'est ça. Là, il a dit, là, ils sont au 18e trou, ils sont even. Puis là, Charest, il a un pot de 15 pieds à faire pour un double bogey, probablement. Puis là, ben, l'autre, il dit, ben, tout le match est nez à nez, là. Puis là, Charest, il pote pour un double. Puis l'autre, il dit, hey, si tu manques cette pote-là, là, il faut que tu te présentes à la chefferie du Parti conservateur. Là, c'est calice. Puis non. Là, il essaye le pote aussi, puis il manque. Ah, oh, fuck! C'est pas vrai!
Ah, mais je serais curieux de lui demander qu'est-ce que ça fait perdre finalement? puis perdre dans la
Poids lièvre!
Ouais, c'est ça. Perdre contre une crotte de nez, là, premièrement. Puis deux, dans l'indifférence totale des Québécois.
Tout le monde.
Oui, c'est ça. Puis dans l'indifférence apparente, là, on en a presque pas parlé. On a juste vu son entrée. On n'a pas vu le pendant ni la sortie. Moi aussi, je serais sorti en dessous du tapis. Colin, c'est une fin de carrière plate pour ce politicien qui, selon moi, est un des meilleurs qu'on a vu passer au Québec. Puis là, quand je dis meilleur premier ministre, meilleur politicien, parce que gaffe après gaffe, scandale sur scandale, il se faisait réélire. Je sais pas si
c'est après la bombe nucléaire. Après la bombe nucléaire,
c'est ça. Puis il a vécu comme ça longtemps, sans la tête, comme une coquerelle est capable de survivre longtemps. Mais là, finalement, on dirait bien que la blatte a fini entre les poils du lièvre.
Mais là, François Malléga, c'est ça, Boudoumti. François Malléga, il y a une théorie là-dessus, lui. Il a compris ce qui s'est passé, Frank.
Ben oui, explique-moi ça.
Jean Charest a lancé sa campagne pour la chefferie du Parti conservateur en condamnant la manifestation d'Ottawa. Pierre Poilievre, lui, l'a soutenu. On sait maintenant qu'au moins 33% des Canadiens soutiennent les camionneurs.
mais il n'y a pas tout à fait tort, parce que c'est certain que ça n'a pas dû
plaire,
parce que l'électorat conservateur... Non, je vais le dire dans l'autre sens. Les gens qui soutiennent le convoi de la liberté, puis les libertés, les libertariens, votent évidemment à droite et beaucoup du côté conservateur. Donc, de voir que le candidat à la chefferie de leur parti favori n'était pas en faveur de leur Woodstock, de leur festival préféré qui, pour eux, a un sens très profond, historique, puis un combat de la liberté. Pour eux autres, c'est plus qu'important. Là. C'est un peuple qui se lève! Parce que, rappelons-le, hein, tel que Steve Charland nous l'a dit, il y avait des millions de personnes à ce convoi-là. En tout cas, c'est ce que ces gens-là croient.
2,2 qu'il avait dit.
Peu importe. Dès que tu dis millions, t'es plus là. Même à 100 000, t'étais plus là. Mais c'est certain que ça a déplu. Je pense que... Jean Charest n'a pas bien pris le pouls du nouveau Parti conservateur et des nouveaux appuis des gens qui soutiennent ce parti-là. Parce que je pense que t'es trop vieux, Jean. T'es trop vieux, ton flair est parti. T'aurais dû sentir le conspi. T'aurais dû ressentir l'appel du conspi et y répondre présent. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu serais chef du Parti conservateur. Et disons-le honnêtement, ça serait moins pire que la bébite qu'ils ont élue, là.
Tout à fait. Puis, tu sais, d'ailleurs, on félicite M. Poilievre parce que là, il s'est mérité le droit inconditionnel qu'on aille fouiller dans ses shorts. Alors, on va trouver plein d'affaires. Soyez sans crainte. Et déjà, je peux vous en raconter une que j'ai vue passer, qui avait été d'ailleurs que plein de gens interpellaient Jean Charest là-dessus, justement, parce que sa conjointe, hein, qui est très verbale, qui est très présente à ses côtés, tout ça, tu sais, le bon vieux power team à la US Republican, là, mm-hmm. Que sa femme est avec lui à côté, puis il y a
un pas loin, puis
un gun, puis tout.
Avec un pasteur pas loin qui est béni. Leur...
Elle partageait, pendant la campagne à la chefferie, elle partageait des trucs de gens qui sont reconnus comme des théoriciens de QAnon et tout ça. Puis il y avait plein de gens qui interpellaient Jean Charest pour dire, tu vois-tu ça, là? Regarde qu'est-ce que ton complice. En tout cas, on va suivre ça.
C'est-tu qui doit être heureux? Ça doit être Justin Trudeau, les libéraux, et même le NPD, parce que je pense que tu sais, faut lui faire confiance un peu, puis attribuer certaines qualités. Je pense que Poilievre ainsi que les nouveaux conservateurs vont main dans la main réussir à détruire la crédibilité de ce parti-là et peut-être l'éloigner du pouvoir pour plusieurs années, souhaitons, comme moi je le souhaite.
un petit dernier, parce que dans le fond, Amalega nous amène, nous permet de faire du branche à branche sur tous les sujets qu'on veut traiter, parce que je vais en avoir un peu plus sérieux après, Frank.
Okay.
Ce matin, il y a 3 heures. Une théorie du complot. Bon, on voit en fait une image de la construction du World Trade Center, puis on voit tout là à l'effet que tu sais c'est quelque chose de bâti sur du solide. C'est pas une vieille théorie de ces affaires-là peuvent pas brûler là puis toute la quête. Mm-hmm. Une théorie du complot prétend que sous la supervision de Ben Laden, un avion a transpercé ce béton armé qui s'est écroulé comme du sable. Aucune enquête ne l'a prouvé. Maintenant, il faut croire que sans le vaccin, le COVID réserve le même sort à l'humanité.
Oh, cool.
Ça, c'est la première affaire à laquelle ce gars-là, il pense, genre, après avoir pris son deuxième café.
François Amalgama, c'est ça?
Ouais, Amalgama, ouais.
Il est assez bon pour faire des amalgames.
Ouais, il est assez solide. Moi, tu sais, si j'avais une suggestion, bien sûr, à faire à cette personne, c'est prendre un petit break, là. Hein?
Ouais, ferme-moi ta gueule.
Ferme donc ton sel ou, tu sais, mets ton compte Twitter on hold. Puis,
prends des vacances. À tout le moins, tu as besoin de vacances de cet univers-là.
Ouais,
mais c'est pour vrai, là, c'est pas drôle de le voir s'enfoncer comme ça parce que, tu sais, c'est. Moi, je pensais, tu sais, tu t'enfonces dans la boue, tu sais, mais à un moment donné, tu peux arriver les pieds sur une roche sur laquelle tu peux t'appuyer pour remonter. Ce qu'aurait dû être, je pense, sa peine de prison puis ses apparitions en cours. Mais il a décidé de tasser la roche et de s'enfoncer plus profondément au risque de noyer sa vie. Pas dans le sens de mourir, mais il est en train de s'enclaver dans cet univers-là conspirationniste dont je pense il aura beaucoup de difficultés à sortir parce que, d'après ce que je vois en tant qu'observateur externe, il ne lui reste que ça.
Parlant de boîte et de perdition, ça fait plusieurs fois, Frank, que je saute mon tour, mais celle-là, je peux pas.
Vas-y.
Et là, ben, on va parler de Yann Pitre ou d'André Rochdy ou choisissez. Je te lis le tweet en question. Saviez-vous, mesdames, que votre pilule contraceptive modifie votre cognition et vous fait aimer les hommes féminisés? C'est une des raisons expliquant pourquoi beaucoup de couples brisent après leur premier enfant. Vous ne pouvez pas nier votre biologie toute votre vie, mesdames. Ça, attends un peu. Wow. Là, non. Tu vas avoir ton tour au bâton et quatre tours.
Vas-y.
Mais de toutes les performances olympiennes de mansplaining que j'ai vues de toute ma vie, là, celle-là, ça s'en va au Panthéon.
Oh oui, c'est dégueulasse.
C'est infect, c'est une misogynie sans nom, c'est du mansplaining olympique. Je m'excuse, mais si de deux choses l'une, comme je dis souvent, la balance des inconvénients, si tu dis ça pour troller, t'es un cave. Puis si tu le penses pour de vrai, t'es encore plus cave. Existe-t-il un scénario dans lequel t'as pas l'air cave? Je ne crois pas.
C'est tout ce qui aurait l'air cave dans un vrai cours de vraie biologie. Mais tu sais, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il affirme une chose comme ça. La seule chose que je vois, c'est qu'il s'est levé, c'était un mauvais matin. Son café était froid, son beurre était dur, ses toasts étaient brûlés. Puis il s'est probablement zippé les jeans par-dessus sa petite quéquette molle qui bande mou. C'est souvent ceux qui affichent une masculinité toxique comme ça, puis qui parle d'hommes féminisés puis des choses comme ça, c'est souvent pour compenser. Tu sais, le genre de dude avec un pick-up gros comme une maison avec des couilles en métal après la boule pour le trailer, puis optionnellement des drapeaux de Trump à ses côtés là, ce genre là, moi je le vois comme quelqu'un de soit de frustré sexuellement ou d'insécure sur sa propre masculinité, parce que je peux pas comprendre comment on peut en arriver à être aussi toxique puis à En tout cas, à dire des choses comme ça, je sais pas s'il les croit. S'il les croit, son cas est encore plus lourd, encore plus grave, puis il y a probablement rien à faire. Mais c'est indigne d'être dit dans un micro ou écrit sur les réseaux sociaux. Tout ce qui sort de lui, là, sa bouche ne bave que l'outrage et la misogynie. C'est vraiment un être répugnant. Je vais arrêter là avant de dire des choses un peu trop élevées, mais mon opinion de cette personne-là est au troisième sous-sol.
T'as tout dit, je vois vraiment pas ce que je pourrais ajouter. Puis là, Frank, si tu me permets, je vais aborder, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible, mais ça va te concerner aussi. J'ai y a deux derniers sujets.
Ouais, vas-y, je suis capable. Moi, je suis un vrai homme, mais si je pisse ouais, debout, puis là,
ouais, tu me viendras me péter à gueule si t'es pas content. Tu sais. Mais non, ça va être sur un ton un peu plus personnel que je veux en faire part aux gens. J'ai fait une publication sur mes pages aussi, mais je veux en parler publiquement parce que c'est un sujet qui va te toucher aussi invariablement. Mais j'ai remis principalement par manque de temps, et ça c'est pas un cover-up ou quoi que ce soit, mais par manque de temps, j'ai malheureusement dû annoncer au conseil d'administration du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue que je remettais ma décision comme administrateur après à peu près 10 ans. Là, j'ai jamais fait de calcul précis. Et la raison principale, puis je veux être super transparent parce que j'adore cet événement-là, mais la raison principale, c'est vraiment parce que je manque de temps, je suis loin. Je préfère laisser ma place à quelqu'un qui a des bras sur le terrain, tu sais, puis qui est là, tu sais, physiquement, que ma petite expertise à distance, puis tout le kit. Ceci dit, je suis et demeurerai toujours un ambassadeur de cet événement extraordinaire. Allez sur fgmat.com pour aller voir ça, pour aller connaître les artistes incroyables qui sont passés dans un coin comme Juan Aranda, des artistes internationaux et tout ça. Et je remercie tous les membres du conseil d'administration et particulièrement mon ami et mentor Jean Royal qui est président du festival, la vice-présidente de feu, une des personnes les plus passionnées que j'ai jamais connues de ma vie qui s'appelle Louise Vézina et la directrice générale qui est avant tout, une grande amie maintenant, mais également une directrice générale primée, la vraie bonne personne pour être là, qui est à la direction générale. Ceci dit, évidemment que vous vous doutez que sous-jacent à ça, parce qu'il n'y a pas de lien causal, mais en même temps, un des avantages que ça comporte ou une des nouvelles réalités, c'est que je peux commenter sur quelque chose qui se déroule actuellement. Et j'ai un peu changé d'idée, ou en tout cas, je trouve que ça devient un débat encore plus difficile à avoir. Je vais vous lire une lettre ouverte. Je vais le faire rapidement, c'est pas très long. Je vais vous lire une lettre ouverte qui a été publiée. Moi, je l'ai vue dans Le Devoir. C'est un texte collectif, en fait. C'est pas une lettre ouverte. C'est un texte collectif qui se lit comme ça au sujet du financement de la culture par la Fonderie Horn ou mieux connue à Montréal, peut-être sous le nom de Glencore. Et non, contrairement à certains candidats du PCQ, c'est pas à Val-d'Or. Et ça s'appelle pas la Fonderie Van Horn. Donc, voici, je vous lis ça. Nous, habitantes et habitants de Rouyn-Noranda, les personnes alliées du milieu de la culture et les militantes et militants écologistes, demandons la fin du financement des événements culturels par la Fonderie Horn. Glencore bénéficie d'un droit de polluer qui lui permet d'empocher des milliards depuis des décennies. La flore, la faune, tout le vivant est touché. Les personnes vulnérables, les personnes enceintes, les bébés, les enfants sont particulièrement affectés, et ce, indirectement, avec la permission du ministère de l'Environnement. L'attestation d'assainissement autorise des dépassements de normes pour les émissions d'un cocktail de métaux lourds, arsenic, plomb, nickel, chrome, cadmium, etc. Ces passe-droits quant au respect des normes provinciales permettent de générer des profits faciles pour les actionnaires. La Fonderie investit dans son image en étant un partenaire important des festivals de la ville comme Osisko en Lumière, le Festival des guitares du monde, le Festival du cinéma, le Festival de musique émergente, la guinguette chez Edmund pour Ed Horn, dont la Fonderie porte le nom. Avec tout ce qu'on apprend dans les derniers mois, les différents partenariats entre les organisations culturelles et le géant Glencore nous paraissent illégitimes. Le sous-financement chronique de la culture pousse les festivals à cautionner les méthodes d'éco-blanchiment de multinationales écocidaires comme Glencore. L'art a besoin de liberté pour bien s'épanouir. Les dons de Glencore à la culture et à d'autres milieux favorisent l'autocensure et une peur de critiquer l'entreprise par crainte de mettre en péril les finances des organismes commandités. Est-ce qu'on peut parler d'acceptabilité ou plutôt de stratégie de contrôle. C'est un tabou qu'il est important de briser dans la capitale du cuivre. C'est tout le financement, pardon, de la culture qu'il faut revoir pour le soustraire à sa suggestion à l'industrie privée, dans le but de redonner aux organismes et aux artistes leur liberté de parole. C'est dans cette optique que nous demandons à toutes les organisations culturelles qui constituent le cœur battant de Rouyn-Noranda de mettre fin à leur collaboration avec la fonderie Horn. Le silence est la clé de l'Amérique. C'est une citation des vulgaires machins. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Écoute, il y a, je dirais, une bonne 30, 40, même plus que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de signataires. Il y a des artistes que vous connaissez, Richard Desjardins, Safia Nolin. Il y en a plusieurs. Et ça fait, évidemment, ça crée invariablement un débat sur la question qui concerne Rouyn-Noranda, mais plus général aussi, selon moi, parce que ça risque de peu importe de ce qui en découlera, ça pourrait faire office de jurisprudence en la matière, parce que, écoute, il y a le festival de jazz, puis Rio Tinto, il y en a partout de ça. C'est pas un phénomène propre seulement à Rouyn.
Non, puis je veux dire, il y a un historique au Québec, là. Puis, premièrement, moi, j'en arrive du milieu culturel de Rouyn-Noranda. C'est vrai qu'il y a une espèce d'omerta, puis il faut faire attention à ce qu'on dit à propos des minières, parce que l'argent vient de là. Donc, dire qu'ils achètent le silence ou la tolérance, je trouve que c'est pas hors propos. Puis aussi, rappelez-vous le nombre d'événements qui étaient commandités par des cigarettiers, notamment des événements sportifs. Évidemment, la fin de la publicité des cigarettes a mis fin à tout ça, mais c'était un choix social aussi de dire que on va pas laisser une compagnie de cigarettes qui empoisonne le monde faire de la visibilité comme ça sur des événements culturels ou sportifs. C'est un choix de société qui se tient, qui est cohérent avec le message qu'on tente de passer. Fait que moi, je suis de l'avis des signataires.
Moi, c'est difficile parce que là, tu sais, c'est frais fait, là. Tu sais, je veux dire, j'étais encore un administrateur il y a deux jours, là. Mm-hmm. Puis, c'est parce que faut juste faire attention d'attaquer la bonne cible. Et là, je m'explique. Je suis pas en train de dire que c'est ça qui se passe. Je suis en train de dire qu'il y a un danger que ça se passe. Le monde, la région où a lieu ce festival précis-là, OK, tourne autour du secteur minier. C'est pas plus dur que ça, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que là, est-ce que ça veut également dire que tous les fournisseurs de Glencore, qui sont des donateurs de la culture également, parce que en étant fournisseurs de ces entreprises-là, ils les cautionnent? Ou de ces festivals-là, ils les cautionnent?
Ou comme quelqu'un a commenté sur une de mes publications, puis je trouve ça pertinent, dans une certaine mesure, mais le gouvernement aussi qui laisse la fonderie laisser échapper plus de 67 fois la norme qui est censée être tolérée d'arsenic dans l'air. Est-ce que le gouvernement aussi se rend coupable par association? En même temps, on peut pas. Il faut que ça arrête quelque part. On peut pas dire, bon ben là, le gouvernement les laisse faire, donc on peut plus accepter l'argent du gouvernement. Tu sais, il faut mettre la ligne quelque part. Moi, je pense que de s'attaquer à directement l'entreprise qui pollue l'air de façon très intensive, je trouve que c'est un bon départ. Je vois pas la pertinence tellement ou plutôt l'utilité vraiment d'aller plus loin. Commençons par le coupable. Commençons par le principal intéressé. Après, on verra les ramifications, mais ça serait déjà un bon départ de si le gouvernement n'a pas le courage de mettre son pied à terre, au moins que la population et que le milieu culturel ait ce courage-là, au risque de voir son financement baisser drastiquement.
Moi, Frank, regarde, c'est pas compliqué, là. Quand je parle de faire attention, de ne pas attaquer la mauvaise cible, c'est tout simplement ça que je veux dire. C'est que s'il s'effectuait un soulèvement plus ressenti de la population par rapport à Glencore puis à d'autres grands pollueurs, cette problématique-là de cette lettre collective-là ne se présenterait pas. Parce que tout se passerait dans un cadre acceptable. La problématique que moi je vois, c'est que oui, la fonderie Horn, puis la fonderie Horn là, c'est pas juste une affaire de, c'est important économiquement là. c'est les fondateurs de la place.
Oh oui, la ville, là,
tu sais. C'est ça, là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, là, on s'entend, là, que je, ça, ça te donne pas le droit de polluer. Pas ça, je suis en train de dire. Mais ça a un caractère qui, tu sais, que that hits close to home. Mais attends, tu peux. Mais là, ce qui arrive, c'est que tu te ramasses, quand je parle de mauvaise cible, c'est que tu te ramasses dans une situation où est-ce que tu, ce que tu veux pas, je dis pas que c'est ça qui arrive, mais ce que tu veux pas, c'est que ça finisse, qu'à un moment donné, ces joueurs-là, plutôt que, ou l'autre affaire. Pourquoi qu'il y a pas d'autres entrepreneurs qui ont peut-être pas les mêmes moyens qu'eux autres, mais qui deviennent pas plus nombreux à la soutenir, la culture, pour pas que ça soit obligé d'être des pollueurs qui se fassent du cash de PR là-dessus? Ça, ouais. Ça en est une autre. Puis ils sont tous là. Tu sais, je te le dis, là, j'ai été impliqué longtemps dans le cas du Festival des guitares. Ils sont tous là. Puis ils sont pas mal partout. Il y a des grands entrepreneurs qui sont là-bas aussi au niveau de la construction, au niveau d'un paquet de domaines, du transport, de plein de choses. Donc, ils sont là, eux autres aussi. Fait que moi, je fais juste dire que je veux souhaiter bon courage aux événements culturels relativement à tout ça qui se déroule. C'est vraiment, et je le réitère une dernière fois, c'est vraiment... C'est une conséquence de mon départ qui fait en sorte que je me permets de commenter un peu plus que je l'aurais fait par solidarité avant. Sauf que c'est pas la raison principale du dit départ. C'est parce que je suis pas là. Je suis ailleurs maintenant, mais je vais continuer de demeurer un ambassadeur très passionné de ce festival-là. Ceci dit, ben là, c'est collectivement, c'est pas juste le milieu culturel qui devrait se poser des questions sur le fait que Glencore peut polluer 67 fois plus qu'il devrait. C'est pas juste au milieu culturel de rembourser la facture de ça. C'est à nous tous comme collectivité. Puis c'est là que je pense que c'est dangereux. Que ça, oui, c'est sûr que les gens de la culture sont des gens habituellement très passionnés, très loquaces, très volubiles sur leurs convictions. Mais là, c'est comme collectivité qu'il va falloir qu'on se pose la question. Est-ce que moi, je pète, et là, je la pose en arrêtant le propane. Je la pose la question. Seriez-vous prêts? Puis répondez-nous dans le chat si vous nous regardez sur Twitch ou écrivez-nous sur la page Facebook Le Crachoir. Seriez-vous prêts à payer des billets plus chers pour aller voir des festivals culturels, mais qu'il n'y ait pas de pollueurs qui les commanditent? Parce que à la fin de la journée, les amis, là, c'est ça. Là. C'est à propos de ça. Là.
Seriez-vous prêts à payer pour une accès... pour avoir quelque chose de plus acceptable socialement. Mais tu sais, t'as parlé de qui ont fondé la ville. Ouais, bravo Edmond Horn, t'as fondé la ville. Il est mort depuis longtemps. Glencore, c'est une compagnie multinationale anglo-suisse. Fait que je pense que les liens folkloriques peuvent rester dans le passé, puis on pourrait passer à autre chose sans toutefois renier qu'ils ont contribué à développer cette ville-là, pour ne pas dire fonder la ville presque carrément. Mais on peut peut-être en revenir là, de l'héritage de Edmond. Edmund, là, il est plus là, là. Fait que c'est une compagnie anglo-suisse, tu sais, sans visage. Fait que, tu sais, je pense que l'argument historique, folklorique, on pourrait peut-être être prêt à le laisser aller, là. Moi, je me sens prêt, Martin.
Ben, moi, en fait, moi aussi, là, mais je viens pas de Rouen comme tel, puis tu sais, ce que j'ai entendu comme argumentaire là-dessus, c'était de gens qui sont nés là, tu sais, puis ça, c'est l'enracinement est très, très important, mais il reste que, tu sais, fait que c'est pas dur, là. Tu descends ça à son plus simple appareil, là, il y a deux chemins. Le premier chemin, c'est que les festivals culturels et tous les événements, que ce soit sportifs, peu importe, qui bénéficient de subventions ou de commandites plutôt de ces organismes-là, décident de les laisser aller, ou que la population soit d'accord que leurs événements culturels favoris doivent payer, vendre leurs billets plus chers puis être plus socialement responsables. En ce moment, là, c'est ça les deux. Mais on s'entend que la réelle solution, c'est que le gouvernement mette ses culottes puis qu'il dise « Tu vas m'arrêter ça, 67%, c'est inacceptable puis comme société, on n'en veut pas. »
C'est 67 fois la norme.
Moi, ça, excuse, 67 fois plutôt.
Mais tu sais aussi, c'est pour ceux qui savent pas, là, c'est même plus une mine de cuivre. Là. C'est une fonderie qui reçoit des déchets dangereux de partout dans le monde, des métaux lourds, des cochonneries comme ça, et ils font fondre ça. Et c'est comme ça que ça libère ces produits-là dans l'atmosphère. Fait qu'on est rendu loin de la mine. Là. C'est plus de la mine. C'est envoyez-nous vos cochonneries que vous voulez pas faire fondre chez vous pour pas empoisonner votre population. Envoyez-la ici, nous autres, ça nous fait pas peur.
Bon, voilà. Là, je vais complètement changer de sujet parce que je vais revenir sur l'épisode de la semaine dernière. Mm-hmm. J'ai rien d'autre à ajouter que ce que je m'apprête à dire et ça va comme suit. Je veux dire merci à Sébastien Lévesque qui a communiqué avec moi suite à l'apparition de l'épisode de la semaine dernière. Moi, je change pas d'opinion. Je pense encore que c'était maladroit comme sélection de sujet. Par contre, on sait bien, on a discuté, c'était très civique, c'était très courtois. Et je comprends un peu mieux son point, même si je suis pas plus d'accord avec. Mais je comprends très bien son point. Mais je veux surtout saluer le fait qu'il a communiqué avec moi. Puis que regarde, un autre bel exemple que c'est à se parler qu'on se comprend. Moi, je suis pas en train de dire au monde, écoutez plus Distorsion. Écoute, ce sont des pionniers du podcast au Québec. Ils ont écrit des livres, C'est ça, là. Moi, j'ai rien contre Distorsion. J'en avais contre le choix de chronique de Sébastien Lévesque et de l'antenne sur laquelle il l'a fait. Je sais très bien que ça fait 180 chroniques ou pas, whatever, 200 qu'il fait. C'était pas du tout ça mon point. Je n'en ai pas contre son droit d'aller faire des chroniques à l'antenne qu'il veut plus. J'ai aucun problème avec ça. Moi, je ne faisais que dire que je trouvais pas ça fort d'être allé parler de ce sujet-là, à cette antenne-là, à ce moment-là. Et son acceptation me convient. Puis, on sera, en tout cas, j'ose espérer qu'on sera pas pires amis pour ça. Puis, je salue le fait qu'il soit entré en contact avec moi. Oui. J'apprécie beaucoup.
Pareil pour moi. Merci, puis, ce que moi, j'aurais à lui reprocher, c'est que sa chronique manquait de nuances. Notamment quand il a dit que c'est une des théories qu'il croyait le plus, et justement qu'il dise ça dans un terreau fertile de conspirationnistes, j'ai trouvé que c'était malhabile. Mais est-ce que je lui lance des roches? Non. Est-ce que moi je peux faire ce genre d'erreur-là? Oui. Fait que je suis mal à l'aise avec ce qui s'est passé, mais est-ce qu'on si t'as fait du micro un peu dans ta vie, là, peu importe la station. Moi, personnellement, il y a des chroniques que j'effacerais de mon passé, là. Mais faut vivre avec.
On est tous de même, je pense.
Ben oui, on est tous comme ça. Fait que, moi, je laisse la chance au coureur. Je n'approuve pas sa chronique et sa façon de la faire avec très peu de nuances, selon moi, ou très peu de réserves, je vais dire comme ça. Mais est-ce que je condamne l'individu pour ça? Non, je pense qu'on est loin des leaders conspis, là. Je pense qu'il reste une personne respectable et encore intéressante et qui vaut la peine d'être écoutée. Ouais, ceci dit, ça se peut que si on n'est pas d'accord, qu'on critique. Et je suis convaincu qu'il est capable de faire la même chose pour nous et nous lui entendre. Ne tiendront pas rigueur, parce que c'est un peu ça, c'est it's the name of the game.
Il y a le douai.
Non, mais c'est ça le jeu. Le jeu d'aller parler publiquement, c'est de s'exposer à la critique, la recevoir et en faire en retour aussi. Ça fait partie de la vie publique qu'il a choisi, que j'ai choisi, que Martin a choisi. Puis on est tous capables d'évoluer là-dedans sans s'arracher sans se mordre au tibia l'un l'autre. Puis tout ça reste sain. Ça reste de la critique. De la saine critique, selon moi, puis c'est juste normal. Puis moi, j'ai pas d'autres griefs, là.
Non, moi non plus, et je veux également, pendant ce segment, en profiter également, comme toujours, pour remercier nos détracteurs qui continuent de nous vilipender et de croire que nous avons des agendas cachés et que nous voulons faire farmer des affaires et tout ça, là. Ces gens-là, ça me tente pas de les nommer, ils se reconnaissent, puis vous les connaissez aussi, puis on n'en parlera pas, si ce n'est que pour leur faire un énorme merci. Et ce sont les meilleurs hommes et femmes sandwich gratuits qu'on peut pas trouver. Puis ceci dit, par contre, même si je casse un peu de sucre sur votre dos là avant de partir en peur, là, vous avez le droit. C'est bien correct. Il y a pas de problème. On n'essaye pas de faire l'unanimité. La seule unanimité que je cherche, c'est d'être en paix avec moi-même. Fait que si ça vous convient pas, appelez votre mère puis lamentez-vous. Mais pour le reste, là, je vais te dire quelque chose que j'ai dit quand j'étais avec Suburban à un moment donné. Ça vaut même pas la peine que je m'en calisse.
Pour en savoir plus sur notre agenda caché, rendez-vous sur lecrachoir.gouv.qc.ca. et les montants qu'on reçoit de l'État sont aussi indiqués sous l'onglet pot de vin. Je sais pas si tu avais terminé tes actus conspires.
Oui, j'ai fini, moi. Ça va faire.
Ben, moi, je vais utiliser le crachoir, qui est un micro, rappelons-le, pour mettre des choses au clair par rapport à des publications que j'ai faites au sujet de la mort de la reine. Je l'ai décrit comme une vieille anglaise. J'ai juste dit la vieille anglaise est décédée, elle est morte, je me rappelle plus. Les théories de conspiration vont être intéressantes. Et effectivement, elles le sont, puis elles sont même délirantes. Pourquoi j'ai dit vieille anglaise? C'est pas... Je sais que ça peut paraître péjoratif. J'admets que c'est une description froide et plutôt insensible. Je veux juste souligner que j'en ai pas contre la personne humaine. Pour vrai que cette dame-là soit décédée, ça me fait exactement le même effet qu'un nom dans une nécrologie d'une personne que je connais pas. Autrement dit, ça me touche pas. J'ai pas de grief contre la personne. J'en ai contre la monarchie, mais je les ai pas exprimés dans ce post-là parce que je pense que c'était pas le moment. Mais ça, on pourrait en parler dans une autre édition du Crash War de la monarchie, parce que pour moi, ça reste que la couronne britannique, c'est celle qui a exploité les Canadiens français à l'époque de façon assez honteuse. Je pense que c'était assez clair. Les historiens s'entendent pour dire qu'on était des citoyens de seconde classe. Et c'est aussi la déportation de mes ancêtres acadiens de façon tout à fait sauvage et dégueulasse. Pour moi, c'est pas un bel héritage. Et c'est un archaïsme énorme pour moi que nous soyons toujours sujets de cet empire-là qui a maltraité notre peuple, les Québécois, les Canadiens français et aussi, évidemment, les Acadiens. Donc, il n'y avait pas de commentaire dans mon post. Ce que je voulais dire par la vieille anglaise, c'est juste que pour moi, elle n'est pas importante. Mais si j'avais voulu me réjouir de sa mort, j'aurais sûrement été plus poétique que ça. Vous me connaissez. J'aurais sûrement été plus méchant. Mais c'était pas le but. C'est pas ce que j'ai fait. Fait que ceux qui l'ont perçu comme ça, je suis. C'est bien dommage. Mais je fournirai pas d'excuses parce que j'ai pas émis d'opinion sur sa mort ni sur son existence. J'ai juste décrit d'une façon froide et désintéressée, puis je pense que c'est tout à fait en cohérence avec ce que je fais depuis des années et ce que je dis lorsqu'on parle de monarchie. Là, je vais pas ouvrir une chronique monarchique, je sais que le show est chargé, on a une entrevue qui s'en vient, mais on pourrait peut-être en parler dans une édition ultérieure, peut-être avec quelqu'un de calé en histoire. Quelqu'un bon en histoire, meilleur que moi, là, genre... Quelqu'un qui a un nom difficile à prononcer, là, genre Jérémy Rivard, là,
n'a pas. Ben oui. Mais écoute, moi, j'ai deux questions pour toi, Frank. Mm-hmm. Super simple.
Oui.
96 ans, là, c'est quand même assez vieux.
Oui.
Fait qu'elle était vieille.
Oui.
Puis elle vient d'Angleterre.
Voilà. Au retour, une entrevue assez spéciale dans le Crachoir 218. Bisous. Bye.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide et la chance de participer au mystique Denis la nuit.
Rire et facepalm garantis.
Le Crachoir épisode 218. On va avoir une entrevue assez spéciale. On va s'entretenir avec Julie, qui est une ex-employée de Jean-Jacques Crèvecœur. Elle a travaillé pour lui 6 ans et demi. Bonjour Julie.
Bonjour.
Comment avez-vous connu Jean-Jacques Crèvecœur, puis qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec lui?
Ben là, je travaillais dans un petit cabinet comptable dans le Nord. Puis il était un des clients du cabinet. Fait que là, au début... Je les aidais un petit peu pour quelques contrats, si on veut, mais éventuellement, il y a eu besoin de plus d'aide que perdu un autre employé. Fait que je fais bon, on va y aller, on va aller les aider, puis ça a commencé comme ça.
À titre de comptable, c'est ça?
Oui.
Et vous avez travaillé 6 ans pour lui, et votre période d'emploi s'est terminée quand, précisément?
On s'est terminé en décembre 2020, donc pendant la pandémie, 2 semaines de Noël à peu près.
Est-ce que vous avez remarqué une différence dans l'entreprise ou avec Jean-Jacques Crèvecœur avant la pandémie et pendant la pandémie?
Ben avant, ça a toujours été un petit peu... Bon, il a toujours été très New Age, avec des pensées que je partageais pas, mais bon, je respecte que chacun ses croyances. Fait que bon, je fais mes petites affaires, puis ça finit là. Mais quand la pandémie a commencé... qu'on arrive à début 2020, avant même que ça devienne mainstream, si on veut être complotiste, s'il avait commencé beaucoup à parler « Oh, il va se passer telle chose, je viens de voir la police acheter du matériel, c'est pour frapper sur les les gens qui vont se lever contre le gouvernement ou des trucs comme ça, là, ça devenait de plus en plus lourd. Là.
Est-ce que vous partagez ces croyances ou les avez-vous déjà partagées?
C'est sûr qu'au début, quand il y avait le moment un petit peu de peur des 20, au début 2020, j'étais comme j'avais de la misère à... Sans dire que j'ai confiance entièrement au gouvernement ou au Big Pharma, je sais que c'est pas des anges, puis on le sait qu'ils ont toujours des petits amis qui veulent se payer, mais en même temps, j'étais comme une limite à se rendre complètement dans ils veulent tous nous tuer, puis ils vont nous abattre, puis ils veulent tuer la moitié de la population. Là.
OK, fait ça va ça allait loin comme ça.
J'étais ouverte à ces arguments au début. Là.
Donc ça allait aussi loin que de dire que les autorités allaient tuer les gens?
Ben, un que je me rappelle, c'était pas exactement tué, mais je me rappelle qu'il y avait une des premières... parce que c'était des réunions qui étaient supposées être au début, juste des réunions de parler de l'entreprise, où est-ce qu'on s'en va, la stratégie, blablabla, mais ça tournait assez vite, en quasiment à toutes les semaines, des 2 heures, 3 heures et plus, que bon, tu sortais un article de la semaine ou une chose de la semaine, disons, dans la presse, qui disait « la police a acheté des équipements », puis disait « ça, c'est la preuve que la police va s'équiper, parce que là, ils vont s'arranger pour aller... écœurer les gens qui sont contre le gouvernement pour les donner, s'ils deviennent agressifs. Puis là, quand ils vont être agressifs, ils vont se mettre à les frapper. Fait que là, ils vont dire, vous voyez, c'est dangereux, les gens anticomplotistes. Puis, ça a monté assez vite, les arguments, juste sur un titre ou un bout d'article.
Julie, est-ce que lorsque vous étiez à son emploi, puis je vous demande évidemment pas de parler pour les autres, mais
ouais.
Est-ce que tu sais, ça faisait partie un peu de la routine habituelle au bureau, mettons, on va dire ça comme ça, de l'appareil à Jean-Jacques, là, tu sais, qu'il y avait un moment où est-ce que là, il s'adressait à tout le monde qui était sur place, puis que là, tu sais, c'était un peu, je sais pas, moi, à l'heure du lunch ou pendant un break ou n'importe quand, tu sais, est-ce qu'il vous sentiez que il vous prêchait, là, ça, entre guillemets, sa bonne parole, là?
Oui, bien, comme je disais, les réunions qui étaient souvent, qui étaient, tu sais, d'habitude, quand tu as une réunion d'équipe, tu t'attends à parler de l'entreprise, puis qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi nos tâches, etc. Puis quasiment, éventuellement, ça s'était rendu à toutes les semaines, que ça pouvait durer 1 heure, 2 heures, 4 heures, que c'était bon, ben vois-tu qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité, ça veut dire qu'il se passe ça, puis j'ai lu ça, c'était écœurant ce qui va se passer, puis c'était écœurant ce que le gouvernement prépare, puis l'armée va s'en venir, puis t'as toutes sortes de...
OK, puis, complot. Évidemment, que j'imagine qu'il y a plusieurs des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, tu sais, qui sont un peu au courant de certains des propos qu'il a tenus. Est-ce que vous avez senti, pendant le cours de votre emploi, mais particulièrement dans durant la pandémie, une escalade, tu sais, vous avez dit tantôt, tu sais, t'as pas mal New Age, puis tu sais, tout ça. Est-ce que vous avez senti une escalade qui a comme un peu mené ailleurs, là, tu sais, puis peut-être un petit peu moins Dr. Gazon, puis peut-être un petit peu plus toxique, mettons?
Ben, plus on s'en est dans la pandémie, là, plus ça devenait, quand on a juste commencé, genre, ça se peut que la police provoque, par oups, il va y avoir des puces, ils se préparent, ils vont le vaccin pour nous empoisonner, puis tu as la moitié de la population, puis oups, plus ça allait, plus c'était pire. Puis quand il m'a annoncé, t'as 4 mois de préavis, t'as 1 mois de préavis, je pense que c'est la semaine avant qu'il sorte sa vidéo sur les reptiliens, la 5e dimension, puis j'étais comme wow, on s'en va où, là?
OK, fait que moi, ce que j'essayais d'établir un peu en vous posant cette question-là, c'est est-ce qu'il tenait les mêmes propos auprès de ses collègues, auprès de ses employés, ou bien non, quand il allumait le Kodak, c'était un show. Fait que, en tout cas, avec vous autres, il était pareil, là.
Ouais, c'était pas mal la même chose.
Comment il réagissait s'il se rendait compte que ses employés ne partageaient pas ses croyances ou n'achetaient pas ses théories? Et ensuite, est-ce que lui, d'après vous, est-ce que lui croit vraiment ce qu'il dit lorsqu'il parle de guérison, de cancer par la pensée, puis de 5e dimension, ces choses-là? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il croit ce qu'il dit, selon vous?
D'après moi, je pense qu'il croit à ce qu'il dit. Là, je pense qu'il est vraiment convaincu qu'il va sauver l'humanité. C'est sûr que je ne suis pas dans sa tête. Ça, c'est, c'est mes croyances, là, mais je pense qu'il croit. Puis la première partie, est-ce que vous pouvez juste me la répéter, la première partie de la question?
Oui, savait-il que vous ne partagiez pas ses croyances? Et si oui, comment il réagissait à ça?
Ben, au début, avant la pandémie, je pense qu'il voyait que bon, la plupart des gens qui semblaient croire... Moi, je l'écoutais un peu ouvertement. Puis après ça, plus ça allait, plus ça a créé de la friction. Parce que Moi, à un moment donné, au début, j'essayais de débattre, comme oui, mais ça, t'es-tu sûr que ça va être ça? Qu'il y avait certains autres collègues qui étaient un petit peu comme je suis ouvert, mais sors-moi des preuves. Puis plus ça allait, j'étais comme quand ça partait sur les réunions de café, de tabac café quasiment, j'étais comme bon, je parle même plus, je m'en occupe plus, je m'en vais travailler sur.
Combien ça prenait pas mal de place finalement là, tu sais, dans toutes les opérations journalières, c'est des trucs qui pouvaient revenir. Je veux pas dire que c'était juste ça, mais ça prenait pas mal de place finalement là.
Mais ça devenait très très lourd sur le moral, en plus de tout ce qui se passait les premiers mois, on n'était pas sûr ce que ça s'en allait. Puis là, t'avais plus ça, c'était pas facile sur le moral.
Est-ce que son entreprise ou organisation avait pignon sur rue ou c'était chez lui?
On était dans un endroit privé, là, c'était pas un pignon sur rue, comme dit là, un commerce. Là.
OK, c'est l'endroit où il vivait, finalement, sa maison?
Oui.
Il y avait combien d'employés?
On était, en général, moins de 10. Là.
Quand, je vais revenir un peu sur l'avant-pandémie, parce qu'il y en a fait beaucoup allusion pendant, là. Tu sais, nous autres, on a étudié un petit peu le phénomène, là, tu sais, il vend des cours, c'est un conférencier, tu sais, il y a un paquet d'affaires, ça des fois, ça donne un peu l'impression d'un espèce d'empire, là. Puis, parce que, évidemment, il a été impliqué au début de la fondation que nous autres, on appelle la Fédé la Tapouette, là, mais la Fondation pour la Défense et les Droits...
La Défense fondation, des Droits et Libertés
du peuple. Voilà. Oui, rigueur. Et c'est ça, puis tu sais, il y a eu, bon, on s'en souviendra, là, puis je vais pas nécessairement vous demander de commenter là-dessus, mais on se souviendra qu'il y avait eu une chicane, une espèce de putsch, une mutinerie dans le bateau. Après ça, ben il y avait eu disons que Jean-Jacques Crèvecoeur s'était pas trop gêné pour faire part de ses opinions au sujet de Stéphane Blais, et par la suite, il y a eu une réconciliation et tout ça. Je veux pas de chiffres pour des raisons évidentes. Ouais. Mais on parle quand même d'une entreprise florissante là, on parle de quelque chose là, tu sais, ça a des employés, ça roule là, ça roulait cette histoire là, ça marche.
C'est rentable, autrement dit?
Oui.
C'était rentable?
Ben oui.
OK. Fait que quand il y a question, c'est moi qui vais dire ça, mais tu sais, un des griefs qu'il y avait, c'était de dire qu'il y avait des gros manques à gagner par rapport à sa participation au sein de la fondation et tout ça. Fait que je veux pas que vous répondiez, mais je vais en déduire que c'était vrai, là. Tu sais, on est devant un phénomène que là, on se dit tout le temps, ben ouais, on s'en a pas d'allure, puis il peut pas faire tant d'argent que ça. Mais en tout cas, c'est pour ceux qui nous écoutent, ça a l'air d'être ça, là. Tu sais, fait que oui, il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ces affaires-là. Moi, où j'en ai un peu plus, c'est quand tu commences à tenir des propos. Insérez votre qualificatif.
Oui, c'est ça. Dans quelles circonstances s'est terminé votre emploi? Est-ce que c'est vous qui avez quitté?
En fait, ça a été une chute d'événements qui s'est passée pendant l'automne. Là. Moi, déjà, j'avais commencé un peu une dépression à l'été. Puis là, ce qui n'aidait pas, c'était de plus en plus lourd. Puis là, j'ai eu un gros accident d'équitation au mois d'octobre 2020. Fait que là, au début, on n'était même pas sûr. Eh bien, pour vous donner une idée, après 5 minutes de l'accident, genre, on chantait même plus mes doigts parce que mon poignet était complètement tout ce qu'il appelle tendon, os, nommez ce que vous voulez. C'était un peu massacré. Ça a été une reconstruction. Fait que là, j'étais déjà, il y a ça qu'il y avait. J'avais mal. J'étais sur beaucoup de médications. Là, j'étais pas certaine si j'allais retrouver comme 100% de l'utilisation de ma main, mes doigts, etc. Fait que là, il y avait ça qui se rajoutait, plus la dépression. Plus j'étais en thérapie pour autre chose. Fait que j'allais pas bien, plus la médication, on s'entend que ça l'aide pas encore le moral. Puis j'étais supposée pas travailler pendant 6 semaines selon le docteur. Mais vu que j'étais la seule côté finance, hein, je me disais, bon, je peux pas les laisser tomber. Fait que j'ai quand même décidé de travailler pendant mon congé obligatoire du médecin.
Okay.
Mais là, je vous dis, si je vais être honnête à 100%, à cause de mon état d'esprit qu'on peut dire un peu dérivé, un peu altéré. Oui,
c'est compréhensible.
C'est ça, des fois, je sortais des propos qui étaient dépassés un peu ma pensée. Bon, des fois, j'ai dit, j'ai l'impression que tu fais ça pour l'argent, ou des fois, j'ai pas dit les meilleures choses. Fait que, oui, j'étais pas parfaite. Mais à un moment donné, il a décidé comme, ah, t'es plus heureuse dans l'entreprise. J'ai décidé qu'on mettait fin à ton emploi. Il m'a annoncé ça comme ça. D'un côté, c'était pas... Oui, c'était lourd. Puis en plus, j'avais un goût de d'aller plus loin dans ma carrière. Fait que d'un côté, oui, c'était pas si pire. C'est juste, ça a été annoncé one shot, deux semaines avant Noël, pendant la COVID. T'es comme, je sais pas, je vais-tu trouver de la job tout de suite? Moi, là, c'était comme, ça s'est fait un peu sec. Là. C'est ça qui, au début, qui a été un peu dur à prendre.
Est-ce que vous faites le lien entre le fait que vous l'ayez confronté sur ses motivations et votre fin d'emploi, ou c'est plutôt un amalgame de tout ce que vous nous avez raconté?
Ben, j'ai l'impression, bon, ça, encore une fois, ça c'est mon impression, je suis pas dans sa tête, mais j'ai l'impression que ça l'a peut-être joué un peu, parce que pendant les premières années que j'étais là, j'ai jamais vraiment cru à ces choses, puis j'étais aussi plus jeune au début, fait que je manquais plus de confiance. Il y a des choses, mais il était toujours là pour faire comme, oui, on va t'aider, on a ci. Là, d'un coup, genre, quand je suis dans mon pire quasiment que j'ai été à vie personnellement, mentalement, tout d'un coup, c'est comme, on te pitch dehors, puis comme on pitch, je fais, bon, on peut-être donner une chance, mais ça a été le mois après, le mois, c'est où on savait que je m'en allais, que là, ses propos et son attitude ont vraiment changé envers moi. Fait que j'ai l'impression que ça l'a joué, que je croyais pas à ses complots, là.
Puis là, OK, il s'est passé beaucoup de temps, là, tu sais, ça fait quand même deux, on a parlé de 2020, là, décembre 2020, fait que ça va bientôt faire deux ans.
Ouais.
Est-ce que, j'allais utiliser le mot consommer, est-ce qu'il vous arrive encore de croiser des trucs qu'il fait, puis est-ce que vous voyez, tu sais, encore une fois, qu'on continue l'escalade un petit peu, là. Comment vous prenez ça maintenant quand vous voyez des capsules de lui?
Mais j'en regardais plus la première année, je dirais en 2021, là, que je regardais un petit peu où ce que ça s'en allait, ce qui se passait. Puis je trouvais que plus ça allait, plus il tombait un petit peu, pas dire le mot politically correct, là, mais qu'il tombait un peu dans les nuages, là, si on veut. Là, comme je voyais, comme il s'embarquait encore plus dans les théories de QAnon avec Cossette, Trudel, puis la cinquième dimension, là, je suis comme... C'était pas si loin que ça quand j'étais là. Je sais pas si c'est parce que quand j'étais là, je le challenge un petit peu, mais je trouve que ça dérapait de plus en plus.
Tu sais, il a tenu des propos du genre « faut terrasser les journalistes, faut terrasser... » Bon, OK, là, lui, il va dire « terrasser », aller dans le dictionnaire, ça veut, c'est pas violent, là, mais tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'il faut relativiser les choses, blablabla, mais tu sais, on sait tous très bien qu'il n'y en est pas à ses premiers faits d'armes de tenir des propos. Est-ce que, selon vous, puis là, je comprends, je veux pas vous mettre sur la sellette, ouais, mais tu sais, est-ce que... Quand il était pas là, ou quand il était pas en train de faire un sermon, ou peu importe, au bureau, diriez-vous que la majorité de vos collègues étaient en accord avec ses théories?
Je dirais que la majorité semblait partager ses idées. Je dirais pas les idées comme il dit, le terrassé. J'ai pas l'impression qu'il était pour une certaine violence, mais les idées, genre que les employés du gouvernement veulent nous tuer, ça, je pense que oui, là.
OK, mais juste pour que ce soit clair, vous semblez dire que la majorité était d'accord avec ça.
Mais avec les théories, là, pas nécessairement des...
Non, je veux pas dire qu'il cautionnait la violence, là, mais tu sais, ses propos, là, tu sais, de
vaccins, de puces, de Bill Gates et compagnie, là, ça, j'ai l'impression que oui. Là.
Tu peux vivre 30 jours sans manger, en respirant et en mangeant du prana, là, genre. Là.
Avec au soleil, là, tu peux vivre juste avec...
Bon, OK.
En regardant le soleil, des trucs comme ça, là.
OK.
Est-ce que pour vous, son organisation, ou je sais pas comment appeler ça, a beaucoup été comparée à une secte et lui à un gourou. Est-ce que pour vous, ce portrait-là colle?
Généralement, quand j'étais dedans, j'avais pas tant l'impression, mais plus j'ai réfléchi après être passé, j'ai fait finalement, surtout de la façon qu'il a décidé, qu'après ça, il m'a plus parlé, puis qu'il est jamais revenu voir t'es-tu correct, t'es-tu ça, je suis comme... Quand t'es plus avec lui, on dirait que t'es juste... T'existes plus, je commence. J'ai l'impression qu'il y a un certain aspect sectaire. Là.
C'est-à-dire qu'il est plutôt habile lorsqu'on est prédisposé, ou en bonne disposition avec lui. Il est plutôt habile et sympathique. Et lorsque ça ne fonctionne plus, si je comprends bien, ça ne fonctionne plus du côté humain non plus, c'est ça?
Ouais, comme un petit exemple qui était... qui a de l'air un petit peu nono, mais je trouvais que ça m'avait frappé au début, c'est qu'on, quand tu parles avec des collègues, des patrons, si t'es proche un peu, quand tu reçois un courriel des fois, puis que c'est vraiment genre, OK, soit c'est pas à toi que ça t'adresse, c'est une information utile à l'autre, des fois tu vas juste l'envoyer, puis tu vas pas nécessairement faire « Bonjour, monsieur Y, tel que mentionné, vous trouverez ci-dessous, cordialement, on s'entend, tu t'envoies ça à ton collègue à côté, tu vas, des fois tu vas juste faire transférer, ou tu vas juste faire regarder en bas, ou je sais pas si je suis la seule qui fait ça, là, mais des
fois. Ouais, je t'ai envoyé quelque chose, je check ça, t'as pas de formalité, là.
Mais à un moment donné, quand, après que je sois partie, j'avais envoyé. Là, j'attendais savoir si ça fait 6 mois et demi que j'ai été à ton travail. On va-tu faire un souper ou n'importe quoi pour souligner mon départ? Il a dit ouais, on va faire ça fin janvier 2021, il m'avait dit ça. Là, j'ai pas de nouvelles. Année, je communique avec la dame, une nouvelle employée que je connaissais pas. Là. Fait que là, je communique avec la nouvelle dame. Puis là, elle dit ah, finalement, tu ferais mieux d'en parler avec Jean-Jacques. J'ai juste fait transférer le courriel. Puis il m'a pas répondu pendant vraiment longtemps. Puis quand il m'est revenu, quand j'ai relancé, il m'a fait ah, un message. Ah, quel message? J'ai reçu de quoi? Mais c'était vide. Il n'y a pas de bonjour, pas de message, pas de signature. Que tu n'as pas reçu de message. Tu sais, vraiment, le moralisateur de « Hey, ça se fait pas des affaires de même. » J'en ai peut-être envoyé, genre, un chiffre, là, peut-être 50 fois des messages sans formalité, puis ça ne dérangeait pas. Ça se fait pas,
Vous-même, vous avez fait ça avec lui, là. C'est pas comme si... c'est pas comme s'il n'avait pas déduit que ça venait de vous ou que ça vous concernait parce que c'était envoyé dans cette formulation-là. Vous l'avez fait avec lui.
Le message que je suivais, ça me disait « Je t'invite à contacter Jean-Jacques et tout. » Toute ma demande était ci-dessous. Fait que, puis, il m'a fait, puis le pire là-dedans, c'est que j'avais souligné à quel point il était un peu plus agressif envers les gens qui ne partaient pas chez Croyance sur Facebook. J'en avais dénoté, puis j'avais pris des screenshots que j'avais partagés. Puis il m'a vu que j'ai partagé ces screenshots-là. Puis il m'a envoyé un courriel complètement vide. Ça disait juste « À quoi tu joues, Julie? » Le message, il n'y a pas de message, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de salutation, il n'y a absolument rien. Fait que j'ai fait comme, je sais pas si c'était méchant ou si c'était cherché, là, mais j'ai attendu le même nombre de temps, 3-4 mois, puis j'ai renvoyé son message. Alors, quel message? J'ai rien reçu, il y avait pas de bonjour, pas de message, pas de signature, attends-toi pas d'une réponse. Là, il m'a plus jamais répondu.
Vous lui avez servi sa propre médecine.
J'ai repris le message copié-collé, puis j'ai renvoyé, je suis comme, ok, si tu veux me mettre un char de marte pour pas de formalité, puis tu me l'envoies le message d'après...
Au cours de votre emploi, avez-vous déjà été invité à participer à une formation ou une activité quelconque en lien avec son organisation, organisme, je sais pas trop?
En lien avec un peu New Age, quelque chose comme ça?
Oui, parce qu'on sait qu'ils donnent des formations puis des activités. Est-ce que vous avez déjà été invité à participer à ça? Ou avez-vous déjà été témoin de ça?
On n'a pas vraiment fait une activité comme d'entreprise, mais il n'y en a pas que c'était vraiment New Age ou pour enseigner sa façon de penser, là.
Mais une autre question dans le même sens. Tu sais, lui, il y a plein de formations qui sont disponibles en ligne ou des affaires comme ça. Mettons qu'un ou une employée voulait suivre ces formations-là. Y avait-tu un deal? Tu sais, je sais pas. Moi, c'est comme manger à ton restaurant, tu payes-tu moins cher? Comment ça marchait?
Ça, tu pouvais y accéder. Des fois, il donnait les accès gratuits, là.
OK, fait que c'était, si tu veux parfaire tes connaissances, on va t'aider, puis le cours à 1800$, tu pourras le télécharger ou le suivre en ligne, puis là-dessus.
Ouais, c'était...
Hey, il est donc bien fin!
Est-ce que la majorité des employés suivaient ces activités-là ou partageaient ces croyances aussi?
J'ai l'impression que la plupart le faisaient.
Ah oui, hein, quand même. Et vous, est-ce que vous l'avez fait?
J'ai eu les accès, mais j'ai toujours... Je me suis dit, on va essayer d'être ouverte d'esprit. Peut-être qu'il y a du bon là-dedans, mais moi, j'ai jamais réussi
à trouver
la motivation de le faire. Là.
Ah, OK.
Après 2 ans, là, bon, c'est sûr que c'est passé de l'eau sur le pont, tout ça, mais là, après votre départ et tout ça, puis je veux pas tomber dans le personnel, mais tu sais, j'imagine quand tu travailles quelque part 6 ans et demi, tu développes des relations avec tes collègues et tout ça. Est-ce que vous avez perdu ces gens-là de vue puisque maintenant vous êtes plus à son emploi ou vous avez pu conserver certaines amitiés, contacts ou peu importe?
Non, ils m'ont toutes lâché, puis même qu'ils ont dit, je cite une citation, là, si on veut, dans le courriel que j'ai demandé qu'est-ce qui se passe avec la souligneur, le soulignement mon départ était comme toute l'équipe, ils n'étaient pas intéressés, fait qu'il n'y en aura pas, puis il n'y a plus jamais personne qui m'est revenu, qui m'est reparlé, qui a fait comme, finalement, tu vas-tu mieux, t'as-tu trouvé un emploi, est-ce que ta santé mentale va mieux, il y a comme personne qui m'est jamais revenu.
Fait que ce qui arrive à 95% du monde qui quitte un emploi, peu importe la raison, c'est-à-dire de maintenir des contacts avec des personnes, même si c'est une petite entreprise, dans votre cas à vous, ça n'a pas été possible. Puis la personne qui vous a dit que ça n'arriverait pas, c'était pas les personnes concernées, ça a été un porte-parole de ces gens-là, c'est ça?
Ben, ça a été, en fait, ça a été Jean-Jacques là, qui me l'a dit.
Ah, ben, regardons ça.
Qui a rapporté ce qui s'est passé là. Mais vu que les autres m'ont pas revenu, je le crois, là, sinon ils seraient... Il serait revenu, puis il m'aurait comme... Je dirais même que la première année, ça m'avait blessé un peu. Je me dis, oh, d'un côté, je me disais, voyons, c'est à quoi tu t'attendais. Puis de l'autre, je, comme, j'aurais aimé... Tu sais, je sais que j'ai pas été la fille la plus parfaite dans mon état un peu altéré, mais comme il aurait pu... ça m'a un peu déçu, disons. Là, il y avait des personnes qui étaient vraiment sympathiques, puis j'aurais vraiment aimé pouvoir leur reparler, puis qu'on puisse passer à une autre chose, dire, toi, t'es croyant, j'ai mes croyances, mais on avait quand même des atomes...
Crochet, ouais, ben ouais, tu peux ne pas être d'accord puis tu sais, t'entendre quand même là, c'est clair là.
Parce que j'ai des gens vaccinés, pas vaccinés, j'ai des gens qui ont plus new age, un peu plus j'en ai dans mes contacts encore que j'ai pas connu à cause de ça là, mais je suis comme bon, t'as tes croyances, j'ai mes croyances, mais on se rejoint sur d'autres chemins là.
À un certain moment, Jean-Jacques Crèvecœur a été déplatformé de YouTube, tout ça. Est-ce que vous étiez à son emploi lorsque c'est arrivé?
Oui.
Comment est-ce qu'il a réagi?
Disons que ben, ça fait quand même plus que 2 ans, 2 ans et demi, là, mais non, ouais. Je sais pas. Mais je me rappelle juste qu'il était pas content, puis c'était, c'est de la censure, puis c'est ci, puis c'est ça, là, ce qu'on entend.
Ouais, okay. Est-ce que ça représentait une perte financière importante pour lui?
Je m'en rappelle, mais si je m'en rappellerais, je pense que j'aurais le droit de répondre à cause de mon ordre.
OK, on comprend ça. Ouais. Sinon, l'ambiance de travail générale, tu sais, quand vous rentriez le matin, est-ce que ça se passait comme dans un bureau normal ou s'il y avait une espèce de lien entre les employés qui faisaient un peu comme famille, entre guillemets, ou des gens, tu sais, des gens un peu presque sectaires?
Ben, c'était quand même familial. Je dirais, pas la fois que c'était une sec, c'était juste comme oh, bonjour, comment ça va, puis qu'est-ce que t'as fait en 20 semaines, puis on se parlait quand même un petit peu. Juste sur le. Il y avait plusieurs, il y avait le travail à distance avant même que ça devienne populaire avec la COVID. Mais on se parlait quand même, puis j'envoyais des fois sur le. On avait un chat d'équipe, puis j'envoyais au lieu de dire salut, les gens savaient jamais les choses, fait que je disais chalut.
OK.
C'est ça.
D'accord, vous aviez votre petit lingo, vos petites us et coutumes dans le bureau là, qui faisait que. Même si tu pensais pas que tu étais pogné dans la sixième dimension, tu pouvais avoir une journée de travail qui a de l'allure, mettons. Là.
Ouais.
Question comme ça, est-ce que sur le lieu de travail, est-ce que les restrictions sanitaires étaient appliquées, le masque, le lavage de mains, la distanciation, ces choses-là, en début de pandémie?
Ben ça, on est tombé dans le télétravail assez vite. Là, au mois de mars, tout a fermé one shot, là. Fait que j'avais pris des choses comme je le sentais venir, fait que j'ai pris mes choses pour travailler à distance. Puis on n'a pas tard tourné au bureau entre mars 2020 puis la fin de l'année. Fait que je pense que c'est quelques fois que j'ai été. J'ai pas de mémoire qu'il y en avait, mais même le mars, je pense que c'était pas obligatoire avant 2021 aussi, une affaire de même.
Ouais, ouais, OK. Fait que dans le fond, ça a été inapplicable parce que les gens se rendaient plus au bureau à partir de ce moment-là. Est-ce que, puis là. On veut pas fou avec ça, tout le monde. Je suis pas en train de demander l'état de santé des gens que je connais pas, puis tout le kit. Je parle avec Julie, là, OK? Julie, est-ce que vous pensez que si vous aviez été vacciné, ça aurait posé un problème pour travailler pour lui?
C'est une question difficile, parce que j'ai l'impression qu'il aurait accepté, mais probablement... Je sais pas si tu peux répondre, pas que je veux pas, mais
OK, mais je vais vous poser la question autrement, là. Je veux juste préciser. Ouais. Pensez-vous que si puis je veux pas vous demander si vous l'êtes ou pas, c'est pas de nos affaires. Ouais. Sauf que pensez-vous que si vous l'aviez été et qu'il l'avait su, ça aurait causé un problème?
Je pense qu'il l'aurait accepté, puis ça aurait peut-être pas fait de problème.
Lorsqu'il... Ah, fait que c'est pas si pire que ça, finalement. Là. Puis dans 2 ans, votre âme serait pas disparue, puis c'est pas si pire que ça, là.
Ben, tu sais, je dis ça comme ça, mais parce que, bon, je prends pas de médicaments, je prends pas ci, puis tu dis, ah, toi, je prends des choses d'anxiété, ça ne dérangeait pas. Mais en même temps, le vaccin, c'est tellement gros que peut-être que j'ai tort, honnêtement. Là.
Non, mais parce que tu sais, il en a tenu un puis deux des propos là, à coucher
dehors. Entre autres que le... Il disait entre autres que la troisième dose du vaccin détachait l'âme du corps. Est-ce qu'il croit ça? Est-ce qu'il vous en a parlé?
Ça, mais en fait, il a dit ça après que je sois partie, mais c'est vrai qu'avec les propos de les vaccinés sont contagieux, si ça, peut-être que ça aurait causé problème sous cet angle-là.
Mais le problème en soi ne s'est pas posé. C'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de mandat. Tu sais, c'est parce que ça aurait été une affaire que vous. C'est une chose que vous disiez, ben, je le sais pas. Puis ça en aurait été une autre si vous aviez dit, ben, tout employé vacciné ici pourra plus venir au bureau ou ne sera plus à notre emploi ou, tu sais, ça, ce que vous semblez dire, c'est que ça ne s'est pas produit, là.
Ben, ça reste un peu non applicable vu que le vaccin, je pense, est apparu en 2021.
Ouais, c'est okay, ça. Vous étiez plus là à ce moment-là.
Ouais. Ben oui. Là, on aime ça spéculer.
Parce qu'en général, tout ce qui était tes médicaments, il était comme il acceptait que tu en prenais, même si lui disait, oh, j'en ai pas pris, blablabla. Mais... Fait que ça reste.
C'est spéculatoire. Voilà.
Ouais.
Martin, avais-tu d'autres questions?
Non, je veux surtout dire un énorme merci à Julie d'être en contact avec nous. Puis écoute, on le sait, hein, c'est polarisant comme sujet. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir discuter de ça avec nous. Puis peut-être mettre un peu de lumière aussi sur certaines affaires très intéressantes.
Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité.
Ça fait plaisir. Puis le micro est toujours ouvert si vous voulez encore nous parler. Julie a travaillé plus de 6 ans et demi avec Jean-Jacques Crèvecœur. La suite du crachoir après ceci.
Dictature! Dictature!
Dictature!
Dictature!
Vous provoquez la haine!
Va vous en donner du steak. Pour ne pas dire le deep steak.
Écoutez le crachoir, mais tabarnak!
Le crachoir épisode 218, bisous bye! On remercie beaucoup Julie de s'être joint à nous et de s'être ouverte de cette façon-là pour nous raconter son expérience. Ceci étant dit, c'est temps de parler de Poutine, Martin.
Une des affaires qui est absolument fantastique du fromage, Frank, c'est que contrairement à celles qui sont foncières, il n'y a pas de taxes! C'est-tu du segway, ça, mon vieux?
Oui, monsieur. Mais... J'appelle le titre de l'épisode, bisous, bye, B-A-I-L, bye.
il est prêt depuis vendredi. Mais
C'était un jeu de mots, en fait, un segway prémédité.
ouais, ben c'est ça. Si, effectivement, vous appréciez le fromage, ben pourquoi ne pas aller visiter nos amis, bien sûr, Anne, Hélène et Christian, de l'incroyable fromagerie, Le Fromage au Village. Vous vous rendez sur fromageauvillage.ca/boutique et en utilisant le code rabais DeepSteak. Vous obtiendrez 10% de rabais sur tous les produits qui se retrouvent sur la boutique de 1 et de 2. Si vous placez une commande de plus de 75 $, vous n'aurez pas de frais de livraison. Et ce, partout au Québec. Plein de produits absolument incroyables. Plein de nouveautés également. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite fortement à vous rendre sur la page Facebook également. Évidemment, Fromage au Village. Nous en faisons le partage à chaque épisode. Donc, vous pouvez aller faire un petit tour, aller voir ça. Puis il s'en vient plein d'affaires le fun. Donc, encore une fois, un énorme merci à nos amis Anne, Christian et Hélène. Et vous vous rendez sur fromageauvillage.ca/boutique parce qu'il n'y a pas de taxes sur les produits laitiers, rappelons-le. Et voilà. Et ça se peut qu'il y ait TPS, TVQ sur le transport. Mais si vous commandez pour 75 $, il n'y en a pas de transport. Fait que voilà. fromageauvillage.ca/boutique. Maintenant, vous pouvez également, si vous voulez, parfaire un petit peu votre expérience du Deep Steak Verse ou du Deep... Oui, c'est ça que je dis d'habitude. Ben, vous rendez, c'est très simple, vous rendez sur patreon.com/crachoir et vous aurez toutes les façons selon lesquelles vous êtes en mesure de devenir un Deep Steaker. Et avoir accès, bien sûr, à du contenu exclusif. D'ailleurs, ça va faire les vacances, fini le niaisage, les épisodes du Deep Steak recommencent cette semaine, puis plein d'autres affaires auxquelles on réfléchit, là. Donc, allez faire un tour, c'est très, très simple. patreon.com/crachoir. Pour ceux également qui n'ont pu se joindre à nous, ben sachez que, un, on présente l'émission pré-enregistrée. si c'est votre cas, on vous remercie. Sur Touski TV, donc twitch.tv/Touski TV, les dimanches à 20h, c'est suivi de l'after show à 22h. Et qu'il y aura diffusion les vendredis également de l'épisode. Et tout ça en audio visuel. Alors, joignez-vous bien sûr à nous. Et oui, bien sûr, ils seront disponibles avant pour les membres du Deep State. Donc, si vous êtes en train de shaker dans votre lit en sueur, rendez-vous sur patreon.com/crachoir. Et évidemment, tout ça est disponible hein, en podcast sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. Et Frank, j'ai une giga primeur. Le Boom Chick Hour sera de retour la semaine prochaine, dimanche midi, même heure, mais un autre poste. Et je parle bien sûr de twitch.tv/Touski TV. Et je tiens à remercier les gens parce que j'avais lancé un défi. J'ai dit, si j'ai 100 likes, alors que j'annonce qu'on on relance le Boom Chick Hour, on le fait, puis on l'a fait.
C'était facilement atteint. Donc, longue vie au Boom Chick Hour.
Yes.
Et au quoi, Charles?
Pour moi, mon Charles the Third.
T'as-tu dit the Third dit ou the Third?
Non, the Third. J'ai pas dit the Third.
Okay, c'est pas T-U-R-D. OK. tout ça va nous mener à la toune de la fin. J'ai pas pris un mashup, j'ai pas pris une version métal. Je sais que ça fait un petit bout, j'en ai pas choisi, mais j'ai tellement des affaires cool à vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas Joseph Edgar qui a émergé, je dirais, en 2014 avec la chanson Espionne russe. Ça s'est pas ramassé partout comme des grosses tunes, mais pour vrai, j'adore cette chanson-là. En plus, le gars vient de Moncton, il chante en braillon. Je trouve ça exceptionnel. Fait que j'ai dit, pourquoi ne pas la partager et la faire connaître aux abonnés du Crachoir. Donc la voici, Joseph Edgar avec Espionne russe. On se reparle plus tard ce soir pour l'after show, sinon à la semaine prochaine.
Hey, qu'est-ce que c'est tu veux qu'il dit de plus? Il a tombé en amour avec une espionne russe qui fumait des super slim au milieu de la nuit, quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, il ne se souvient plus, mais se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Se souvient de ses cheveux, se souvient de son odeur, et se souvient de la prendre et ainsi perdre son cœur. Ainsi perd son cœur, se souvient de la prendre, se souvient de l'odeur. Cherchait dans les ruelles, il cherchait dans les bars. Y a-tu quelqu'un qui a vu cacher mon cœur quelque part? Il déterrait les arbres, détruisait les gazons. Ouais, il cherchait tout partout en dessous de chaque buisson. Quand il marchait sur le trottoir, les gens changeaient de côté pour pas voir le trou de son chest que lui avait laissé. Mais moi, je m'ai arrêté, je regardais dedans. J'ai dit, hey, tout est ok, couche-toi, laisse passer le temps. Laisse passer le temps. Tout est alright, man, couche-toi. Laisse passer le temps. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en deux temps, trois mouvements, mais je suis mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Là, j'ai tombé en amour avec une espionne russe. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse. Et en deux temps, trois mouvements, mais je suis mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Ah, j'ai tombé en amour avec une espionne russe. 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 Hey, qu'est-ce que c'est tu veux qu'on dise au juste? On a tombé en amour encore une fois de plus avec une fille qui fumait des clopes au milieu de la nuit, quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, on ne se souvient plus, mais on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. On se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Ouais, on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Tombé en amour avec une espionne russe. Tombé en amour avec une espionne russe. Tombé en amour avec une espionne russe. Tombé en amour avec une espionne russe.
famille H2O Web Media.